Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, toujours en direct bien sûr sur CNews et toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Ravi de vous retrouver. Philippe Guibert, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Content que vous soyez là également. Au sommaire, le match Attal-Bardella, le baby blues des Français. Faut-il sortir de l'Europe? Mais d'abord, l'affaire Théo. C'est tombé récemment. Le policier auteur du coup de matraque qui a déchiré le sphincter de Théo Louaka lors de son interpellation en 2017 a écopé de la peine la plus lourde, 12 mois de prison avec sursis. Les deux autres policiers jugés dans cette affaire ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis. Votre réaction dans quelques instants dans cette dispute, mais d'abord, réaction bouillante aussi de l'avocat de Théo et de Linda Kebab pour les syndicats de police.
Les violences qui ont été commises sur Théo sont des violences illégitimes, qui est une décision de condamnation, une décision de vérité et pour nous une décision de justice. Le message a été très clair. Oui, ces violences n'avaient aucune raison d'être. Non, Théo n'avait aucune raison ce jour-là d'être interpellé. Et oui, les trois policiers ce soir sont condamnés.
Entendez bien, au milieu des hurlements, 7 ans de diffamation. 7 ans de criminalisation, 7 ans du mot viol, de cette diffamation prononcée qui aujourd'hui a été reconnue comme fausse. L'infirmité permanente a été retenue, la qualification du viol dès le début de cette affaire n'a jamais été retenue. Et malgré tout, certains veulent la tête de policiers comme des trophées. Il n'y a jamais eu de viol. Et ça, l'instruction l'a dit dès le début. Et malgré tout, dans les médias, le police bashing a perduré. On veut du ferme, certains veulent du ferme pour des policiers qui n'ont pas commis de crime.
Un verdict qui continue de faire débat, en effet. J'aimerais avoir votre réaction, vous entendre en tout cas, pour savoir si vous trouvez que la sanction, Geoffroy Lejeune, est à la fois clémente, juste, est-ce qu'elle est sévère, pour certains, logique. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Moi, je trouve qu'elle est encore trop sévère, mais par contre, c'est une humiliation pour les partisans de Théo. C'est une humiliation, je pèse mes mots. C'est-à-dire que je vous refais, si vous me permettez, un peu le film. On a donc cette interpellation, on a vu les images d'ailleurs, elles ont été publiées un an après je crois, et on a un président de la République, pardon Philippe, tu as travaillé sous son autorité, mais un président de la République François Hollande, qui court au chevet de Théo pour prendre parti dans cette affaire alors qu'il n'en connaissait aucun des tenants et des aboutissants. On a un ministre de l'économie à l'époque, Emmanuel Macron, qui fait un post sur Facebook pour expliquer qu'il est plutôt du côté de Théo. On a à l'époque l'avocat de Théo, qui aujourd'hui est ministre de la Justice, maître Dupond-Moretti à l'époque, qui explique que son client a été violé. On a les médias, c'était Dupond-Moretti son avocat, et le jeune homme qu'on a vu, maître Antoine Vey, était l'associé d'Éric Dupond-Moretti, et aujourd'hui donc il a repris le dossier, il s'occupe de Théo. Donc il a expliqué qu'il avait été violé. Ce récit s'est installé à l'époque, dans les médias, et on nous a expliqué la matraque de la honte, les policiers ont violé Théo avec une matraque, on nous a expliqué que plusieurs policiers en réunion avaient interpellé, tabassé, ouais, violé un jeune homme. Ce récit s'est imposé. Ensuite, il y a eu le temps judiciaire, et comme d'habitude, comme à chaque fois, ça s'est passé très différemment. C'est-à-dire que très rapidement, la qualification de viol a été écartée pour être prise ensuite à la surprise générale par le juge d'instruction qui aujourd'hui a abandonné cette condamnation parce qu'ils n'ont pas été condamnés pour viol, ils ont été condamnés pour une violence excessive. Ensuite, vous avez l'IGPN, la police des polices qui est réputée très très dure avec les policiers, qui était partagée sur le sujet, qui a témoigné pour les policiers à la barre. Tout était faux dans le récit médiatique initial, tout était faux. Et aujourd'hui, ils sont condamnés à du sursis. C'est pour ça d'ailleurs que les manifestants derrière hurlent en demandant la prison ferme. Ils sont condamnés à du sursis. Moi, je dis que c'est excessif parce que, objectivement, je suis pas policier, je connais pas les règles d'interpellation, mais j'ai l'impression quand quelqu'un d'un mètre 90 ou 95 se débat, qu'il est violent, etc., que
la justice a bien enquêté dessus.
En fait, je trouve ça gênant qu'un juge donne son avis sur la manière dont un policier qui est dans le feu de l'action, mais bon, peu importe.
Non, c'est important.
Philippe, je conteste rien de ce qui a été dit aujourd'hui. Juste, je note que on était aux assises. Les assises, ça juge des crimes. Et ils sont condamnés à du sursis pour de la violence excessive. Donc le récit médiatique s'est effondré aujourd'hui.
Philippe Guibert, votre sentiment? Parce que n'oublions pas que dans cette affaire, donc il y a un verdict désormais,
Théo va rester et handicapé, va rester handicapé par rapport à ce qui s'est produit, à ce qui a été fait. Donc on peut aussi estimer qu'il est victime dans cette affaire. Et voilà pourquoi une certaine partie des manifestants réclament de la prison ferme.
Le récit médiatique de ceux qui ont voulu instrumentaliser cette affaire s'est effondré. Pour le reste, il y a un jugement d'une cour d'assises après une enquête beaucoup trop... Enfin, j'allais dire beaucoup trop longues, elles sont forcément trop longues quand ça dure 7 ans. Mais à la fin, il y a une sanction. Et donc, c'est l'usage disproportionné de la force qui est jugé. Et contrairement à toi, moi, je trouve ça bien que la justice. Je trouve ça même indispensable.
Oui, j'ai aucun problème, bien sûr.
Parce que dès lors que la police a le monopole de la violence légitime, quand cette violence devient disproportionnée, bah, elle est moins légitime, voire elle n'est pas légitime du tout. Et je trouve que c'est important pour la crédibilité de la police que quand c'est nécessaire, quand c'était nécessaire uniquement, des policiers puissent être sanctionnés. Je trouve que ça fait partie de la crédibilité de notre système républicain, de police républicaine. Et donc voilà. Après, je te rejoins sur un point qui est que ceux qui ont voulu instrumentaliser cette affaire et ceux qui sont peut-être déplacés un peu trop vite, je te l'accorde. Et peut-être de manière générale, on pourrait tirer une leçon de cette affaire, qui est que les autorités politiques, quelles qu'elles soient, en particulier un président de la République, devraient être beaucoup plus prudents quand ce type d'affaire intervient et attend avant de prendre la moindre position, parce qu'il n'a pas les éléments du dossier, comme tu l'as dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Mais pour le reste, je trouve que c'est important que des policiers, quand ils ont commis une faute, soient sanctionnés. Je trouve que toute la crédibilité de nos systèmes républicains repose là-dessus.
On continuera sur notre antenne à débattre de cette affaire, en effet. Mais je voudrais aussi, dans cette dispute, évoquer le cas de la France. Pèse-t-elle vraiment sur la scène internationale? C'est la question que je vous pose après qu'Emmanuel Macron ait présenté ses vœux aux armées cet après-midi à Cherbourg. Pas de grande annonce. Le président a abordé la situation en Ukraine, notamment dans la bande de Gaza. Et on va l'écouter d'abord sur la situation avec la Russie.
Dans l'hiver glacial, l'agression russe se poursuit. Bientôt 2 ans. Vous savez l'importance de la volonté au combat et vous mesurez que l'on ne peut laisser la Russie penser qu'elle peut gagner. Quel serait le lendemain pour nous, Européens? Je l'ai dit dès le début, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais notre devoir est de rendre leur victoire impossible. Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne. C'est la fin même d'une architecture de sécurité possible en Europe.
Et donc après ces propos, Geoffroy Lejeune, Vladimir Poutine tremble, a peur. Il y a de l'ironie évidemment dans mon propos, vous l'avez compris.
J'allais dire j'ai compris l'ironie et malheureusement, ce qui est terrible, c'est que ce discours sonne creux. Ce discours, pas forcément celui-là, mais cette volonté que la Russie ne peut pas gagner ne résonne plus avec la réalité. En fait, c'est ça le problème. C'est,
ils n'ont pas gagné.
Si, ils n'ont pas gagné, bien sûr, Philippe. Mais je vais vous rappeler. Alors, Poutine, il y a 6 mois, il y a 1 an, était dément, au bord de l'abandon de poste parce que affaibli par la maladie. Vous vous rappelez qu'on a dit ça? Il est fou, il est mal. Non, mais faut se rappeler de ce qu'on a dit.
Oui, on a débattu.
Tout le monde n'y a pas cru. Et je te loue de ne pas avoir hurlé avec les loups à l'époque. Mais le récit médiatique, toujours le même, à un moment donné, a essayé d'installer l'idée qu'il était fou et qu'il allait bientôt quitter son poste parce que très malade, très affaibli, plus en mesure de gouverner, plus en mesure de prendre des décisions pour mener la guerre, etc. On a eu ça. Bon, manifestement, il se porte comme un charme. Ensuite, on a eu la contre-offensive ukrainienne qui devait être les Valkyries. C'était censé être la fin de l'histoire et le retournement de situation ultime. Ça n'est pas arrivé. Moi, ça aurait été peut-être beaucoup plus simple pour nous si ça s'était produit, mais ça ne s'est pas produit. On a aujourd'hui les Américains qui désertent la zone après avoir, comment le dire poliment, après avoir excité les belligérants, après avoir nourri l'effort de guerre ukrainien, après avoir poussé leur avantage, et c'est bien leur droit, après tout, ils sont une nation souveraine, poussé leur avantage dans la zone, qui aujourd'hui s'en vont parce qu'ils ont compris qu'ils ne gagneraient pas, en tout cas qu'ils n'auraient pas ce qu'ils veulent. Et nous, j'essaie de comprendre la raison pour laquelle on a décidé de se dire que l'Ukraine, Stéphane Séjourné consacre son premier déplacement à l'Ukraine.
Je vais essayer de te l'expliquer.
D'accord. Et on a décidé que c'était là où étaient tous nos intérêts. Moi, je dis pas, j'essaie de fuir le débat moral. En fait, je pense que la guerre et la diplomatie, ça n'est jamais de la morale. C'est parfois de la morale, mais c'est, en tout cas, si c'est de la morale, c'est aussi des intérêts. J'essaie de comprendre quel est notre intérêt capital à faire de ce sujet le seul sujet, alors qu'aujourd'hui, on comprend que nos intérêts sont attaqués partout ailleurs.
En fait, la question, elle s'adapte au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Elle pourrait s'adapter aussi au conflit entre Israël et le Hamas sur plein d'autres dossiers de diplomatie. Vous dites, pardon ?
Vous avez raison, mais on est moins impliqués en Israël.
Très vraisemblablement, mais Emmanuel Macron souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'il marche sur des œufs. Oui. Prendre parti pour l'Ukraine sans entrer dans le conflit contre la Russie. Prendre parti pour Israël, mais attention, en disant il y a une crise humanitaire à Gaza, on ne sait jamais véritablement quelle est la position française. Et c'est peut-être ça le problème.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je la comprends et je trouve qu'elle est parfaitement compréhensible, cette position française, sur l'Ukraine et ensuite sur Israël et Gaza. Sur l'Ukraine, l'intérêt de la France, c'est la sécurité européenne. C'est ni plus ni moins. Que ça ne soit pas le seul sujet, ça je te l'accorde bien volontiers, la preuve c'est qu'on en a plein d'autres dans le monde. Mais l'intérêt de la France, c'est tout simplement que s'il y avait eu victoire initiale de Poutine dans sa démarche du 22 février 2022, c'était 22 ou le 28 2022, et s'il avait pris le contrôle de l'Ukraine, toute l'Europe centrale, ce qu'on appelait l'Europe de l'Est, était complètement déstabilisée. Et donc, toute l'Europe était déstabilisée et rentrait dans un conflit beaucoup plus important. Donc, l'intérêt de la France, c'est qu'il y ait une certaine stabilité des frontières en Europe, de façon à ce que le continent européen soit le plus possible dans une garantie de paix. Face à un Poutine sur lequel on s'est tous trompés, parce que tu as raison sur le fait qu'on a eu des récits médiatiques assez fantaisistes nous expliquant que Poutine était fou, qu'il était très malade, mais il y a quand même eu aussi beaucoup un récit médiatique nous disant « Oh, vous savez, Poutine, c'est juste un souverainiste conservateur qui défend les intérêts de la Russie. » Non,
ça, Poutine... C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais.
C'est, Poutine, on l'a cru. D'ailleurs, moi aussi, je le pensais.
Ouais, moi aussi.
Mais on s'est trompé là-dessus. Il faut le reconnaître humblement. Poutine veut rétablir des frontières, non pas l'Union soviétique, mais des frontières qui ressemblent à l'Union soviétique. Il veut reconstituer un empire russe. Et donc, on ne peut pas laisser un continent sur lequel il me semble qu'on habite, avec quelques milliers de kilomètres à peine, avec des tas de liens d'intérêts très fort avec toute l'Europe centrale, jusqu'à la Pologne, jusqu'aux États baltes, sous la menace de la Russie. Donc notre intérêt, il est là. Et quant à dire...
Est-ce que ça pèse ? Est-ce que la parole de la France pèse quand le président Macron, parce que... dans le contexte de ce conflit russo-ukrainien, est-ce que la diplomatie française pèse ?
Qu'on soit bien d'accord. La France a perdu de son influence sur les 20-30 dernières années. Ouais. Mais attention à ne pas trop nous flageller non plus. On reste quand même une des armées, enfin même l'armée la plus forte sur le continent. La Grande-Bretagne a aussi une armée plus forte, mais elle est sortie de l'Union européenne. Et donc, ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron, en tant que président du Conseil européen, n'a pas réussi à empêcher Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine le 22 février 2022, qu'on n'a plus d'influence.
Oui.
Donc, notre voix pèse quand même. Et alors, sur Israël et Gaza, je trouve que c'est encore plus net. Parce que, évidemment, personne n'arrive à résoudre ce conflit. Les Américains eux-mêmes n'arrivent pas à peser véritablement sur ce conflit. Ils sont garants d'une certaine sécurité de la région pour empêcher que tout s'embrase. Ils ont frappé les outils parce que ça touche le commerce mondial. Mais eux-mêmes n'arrivent pas à trouver la solution pour arrêter la guerre et trouver une solution politique.
On
a une position équilibrée.
Et oui, mais accompagner la position de la France et l'influence de la France sur la scène internationale, Geoffroy Lejeune, est-ce que Stéphane Séjourné est l'homme idéal ? A-t-il les épaules ? Parce que c'est lui le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui.
Écoutez, je sors d'une émission avec Philippe Devilliers sur CNews de 19 à 20h, où la question lui a été posée, et je pense que sa réponse est la meilleure. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites la liste de ses prédécesseurs, et vous avez le début du commencement de la réponse à la question. Ça, c'est sans vouloir être désobligeant. Mais à la limite, je veux dire, les affaires étrangères, c'est le domaine réservé du président.
Absolument.
Donc, c'est comme la défense, d'ailleurs. C'est les deux ministères qui sont concernés. Donc,
Et l'éducation du Premier ministre ?
Je dis pas que, pardon.
Et l'éducation du Premier ministre.
Exactement. Mais je pense pas qu'on puisse, comment dire, tout ne repose pas sur ses épaules, et Dieu merci. Pour répondre à Philippe, mettons de côté la question Israël-Palestine, parce que nous ne jouons, on a une position, nous, historiquement, sur ce conflit, mais on joue pas un rôle direct. L'Ukraine, c'est nous, enfin, c'est notre continent, ce sont nos frontières, et en effet, c'est notre sécurité. Moi, je suis désolé. Sans faire de l'histoire, je me souviens de ce qui s'est passé il y a pas longtemps, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a deux choses, je pense, qui ont été mal faites. C'est premièrement, pour ça que je ne dis pas que les Américains sont les seuls responsables, mais les Américains ont un rôle dans la volonté d'aller au plus proche des frontières de la Russie en embrassant et en récupérant l'Ukraine dans leur giron et dans le giron de l'OTAN. Il y a eu des provocations.
La France et l'Allemagne ont mis leur veto, c'était sous Nicolas Sarkozy.
Je ne te parle pas de la France et de l'Allemagne, je sais très bien ce qui se passait sous Nicolas Sarkozy. Je te dis juste que des experts comme par exemple Pierre Lelouch expliquaient trois mois avant, moi j'ai échangé avec lui trois mois avant, et il me disait, je ne comprenais même pas de quoi il me parlait, ce qu'il se passe en ce moment entre l'OTAN et l'Ukraine sous la volonté américaine est très grave et peut avoir des conséquences. Je riais évidemment, et ça s'est produit. C'est-à-dire qu'il y a ça, premièrement, et deuxièmement, la volonté d'être de Nicolas Sarkozy quand Poutine, parce que c'était le même Poutine, a voulu aller en Géorgie, a eu un autre comportement avec d'autres résultats qui étaient bien meilleurs. Donc il y a une
Géorgie est largement secondée.
Peut-être, mais en tout cas, on n'est pas dans la situation de l'Ukraine avec un conflit qui nous met à genoux et voilà.
Quelques minutes, pardonnez-moi, pour enchaîner sur un thème encore avant les informations, pour avancer et pour pouvoir traiter toutes les thématiques que nous avons prévues dans cette émission. J'aimerais qu'on évoque aussi ce match dans le match entre Attal et Bardella. Sont-ils les meilleurs ennemis et durablement? Puisque le patron du Rassemblement National a rencontré aujourd'hui le Premier ministre qui prépare donc sa déclaration de politique générale. Pour Jordan Bardella, dans leur face-à-face, est-ce que la valeur attend le nombre des années? La réponse de l'intéressé.
La question de la génération est, à mon avis, secondaire. Je pense que l'âge n'est en rien un gage d'efficacité. Et que, par conséquent, Gabriel Attal, comme Premier ministre, sera jugé non pas à ce qu'il est, mais à ce qu'il fait et à la politique qu'il conduit. Et de ce point de vue-là, je viens de dire aux Français, malheureusement, que rien ne changera parce que l'équipe ministérielle reste la même autour de lui. Monsieur Darmanin, Monsieur Le Maire, Monsieur Dupond-Moretti, qui accuse en matière d'immigration et d'insécurité tous les records franchis depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et surtout, le cap politique restera le même. Le président de la République l'a encore redit.
Et on se demande, Geoffroy Lejeune, si véritablement les deux hommes sont programmés pour s'affronter. Parce que c'est ce que l'on prédit depuis longtemps. Est-ce vraiment le cas? S'affronter longtemps.
Oui, alors dans
le temps.
Ils sont voués à s'affronter si leur carrière politique se prolonge. Je ne crois toujours pas que ce soit nos candidats de 2027. Et je pense que Gabriel Attal, en devenant Premier ministre, a d'une certaine manière... Je ne sais pas s'il en avait l'attention avant, mais enfin, d'autres y pensaient pour lui. Je pense que lorsqu'on prend Matignon à 3 ans d'une présidentielle, c'est qu'on sait, sauf coup de théâtre qui peut toujours arriver, qu'on ne sera pas forcément le candidat de son camp à la présidentielle, parce que Matignon est un lami noir tout de même, qu'on le veuille ou non, quand bien même on prend plaisir à exercer cette fonction, et qu'il est extrêmement difficile, plein ont essayé, ont tenté l'expérience, mais tous ont raté, de passer de Matignon à l'Élysée. En général, la transition est très compliquée, et d'entrer en campagne présidentielle. Quant à Jordan Bardella, je pense aussi, sauf coup de théâtre, éventuellement, si la justice rendait Marine Le Pen inéligible, ce n'est pas encore son tour. Donc, ils seront peut-être dans l'avenir de leur carrière politique, puisqu'ils sont très jeunes. L'un a 34 ans, l'autre a 28. Ouais. Ils sont quand même très jeunes, donc on peut tout à fait imaginer qu'ils soient des adversaires dans les 10 ans qui viennent. Après, sur les élections européennes, je trouve qu'on en fait beaucoup, pour tout vous dire. Bon, bien sûr, c'est important, mais c'est important pour nous, les commentateurs politiques, et pour les acteurs politiques. Pour l'opinion publique, pour les Français, pour les électeurs, je pense qu'ils vont attendre le mois de mai avant de s'y intéresser. Et je rappelle quand même que c'est une élection où il y a environ 50% d'abstention au moins. Et donc, ce n'est pas quand même l'élection majeure de la Ve République.
Les deux hommes ont-ils des similitudes, Geoffroy Lejeune? Attal Bardella.
J'hésite entre vous répondre sur une analyse ou vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire.
Raconter l'histoire.
Ouais, oui. Mieux,
c'est tellement mieux. Bien
sûr. Raconter une histoire. Des histoires.
Hein. Non, je raconte l'histoire parce que moi, j'ai assisté un peu indirectement au début de leur relation, entre guillemets. C'est que, en fait, je travaillais à l'époque à Valeurs Actuelles et on avait, à leur demande, enfin, en tout cas, la demande de Gabriel Attal, qui était ministre à l'époque de la jeunesse et donc qui s'occupait du SNU, ils voulaient incarner cette fonction, ils voulaient lui donner un sens politique. Déjà, d'ailleurs, à l'époque, qu'il avait déjà, lui, du sens politique et il voulait la colorer, la connoter, etc. Et donc, il avait eu l'idée, c'est lui qui avait eu l'idée, c'est son cabinet qui nous avait demandé d'organiser ça, de débattre avec Jordan Bardella, qui à l'époque était tête de liste du RN aux élections européennes déjà, et qui était un peu le visage du renouveau, pour à la fois incarner le clivage Macron-Le Pen au niveau de la jeunesse, et pour ensuite se trouver un adversaire un peu de son niveau. Il l'avait identifié. Bardella avait accepté. Cet entretien a été organisé donc dans nos colonnes. Je me souviens, j'étais passé pour les saluer dans un bureau chez nous. Enfin, je revois cette scène, ça m'amuse beaucoup aujourd'hui d'y repenser. A été publié, et ensuite, ça a donné l'idée à beaucoup de journalistes de l'organiser. Donc, ils ont débattu ensuite beaucoup de fois en 2021. Ils se connaissent en réalité. L'Express, le journal L'Express racontait il y a peu de temps qu'ils avaient un jour été, ils s'étaient retrouvés côte à côte dans l'avion par hasard. Ils avaient pris un vol et pendant une heure et demie ils avaient discuté, etc. Il y a chez Bardella une façon de surveiller Attal de loin, de regarder comment il se débrouille, ministre de l'économie, etc. Et chez Gabriel Attal, moi je suis témoin vraiment du fait que lui, son cabinet, etc. regarde Jordan Bardella comme quelqu'un qui va jouer un rôle en même temps qui sera un adversaire. Enfin, une façon de se jauger qui est assez amusante. Et en réalité, je pense qu'à l'heure où on parle, parce que je pense comme Philippe qu'il faut mettre des petits bémols à l'affrontement prévu en 2027, on peut pas du tout parler de ça encore de manière certaine. En revanche, ce qui est amusant, c'est que en jouant ce jeu-là, ils se sont attirés l'un et l'autre vers le sommet. Il y en a un qui est président du premier parti d'opposition, l'autre qui est premier ministre. Et en fait, mine de rien, dans la tête d'Emmanuel Macron, évidemment que l'émergence de Bardella signifie quelque chose sur la régénération de la vie politique. Et donc, du coup, il doit s'adapter à ça. Et donc, la jeunesse n'est plus un handicap, mais un atout. Et dans la tête de Marine Le Pen, un premier ministre de 34 ans, ça veut dire que ça légitime son choix d'avoir mis quelqu'un de 28 ans à la tête de son parti.
Une minute pour conclure sur cette thématique, Philippe.
Parce que moi, j'étais très étonné de cette prise de position de Marine Le Pen à 3 ans et quelques d'une présidentielle. Une présidentielle, on ne se présente jamais en ticket. Peut-être
c'est
que c'est
étonnant et c'est nouveau. C'est vrai.
De la vie politique française qui, lui aussi, comme plein d'autres axiomes, sera renversé dans les années qui viennent.
D'accord.
Mais quand on se présente aux Français pour devenir leur président, présidente en l'occurrence, de la République, et le choix du Premier ministre est une arme politique extrêmement importante dans le cas d'une campagne présidentielle et a fortiori dans le cas d'une élection. Et donc je trouve que, en plus, c'est pas forcément très malin parce que Marine Le Pen peut aussi, en ouvrant son champ politique, en n'ayant pas un Premier ministre venu de son parti, donner le sentiment aussi qu'elle veut s'ouvrir et s'allier à d'autres, ce qui peut être un atout. J'ai trouvé que c'était une petite faute politique, pas bien grave à 3 ans et demi de l'échéance, mais que c'était une petite faute politique. Pour le reste, c'est intéressant, pardon de jouer un peu l'ancien, mais de voir des profils politiques qui sont comme des météorites, sans être passés par des fonctions locales, sans être passés très longtemps par l'Assemblée nationale. Alors Jordan Bardella a une vraie fonction partisane puisqu'il est président du RN, mais pour le reste, c'est des parcours qui ne ressemblent en rien à ceux qui émergeaient il y a 20-30 ans.
Le nouveau monde.
Et connaissent-ils vraiment les Français? La vie des Français aussi, c'est une question qu'on pourra se poser
plus que d'autres,
à l'avenir. C'est pas impossible. On marque une pause des informations dans quelques instants. Rappel des titres et d'autres thématiques dans Ça se dispute avec Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune. On va évoquer le baby blues des Français dans quelques instants. Il y a de moins en moins de naissances en France. Pourquoi ? Est-ce que c'est grave ? À tout de suite. La deuxième partie de Ça se dispute, toujours en direct, évidemment, le vendredi à partir de 21h avec Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune. Mais d'abord, un point sur l'information. Simon Guilin, bonsoir.
Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. Le bébé enlevé hier soir à l'hôpital de Meaux a été retrouvé sain et sauf avec sa mère. C'est ce qu'a annoncé ce soir le procureur de la République. Il s'agit d'une petite fille âgée d'un mois. C'est grâce au dispositif alerte enlèvement et au signalement d'une passante qu'elle a pu être retrouvée. La mère de l'enfant a été placée en garde à vue. La SNCF enregistre une nouvelle année record en 2023. 122 millions de passagers ont été transportés l'année dernière, soit une hausse de 4% par rapport à 2022. Et cette croissance est en grande partie portée grâce aux déplacements professionnels. Et puis la Russie appelle le Hamas à libérer les otages détenus dans la bande de Gaza. Moscou estime que la crise humanitaire dans l'enclave palestinienne est d'une ampleur catastrophique. Pour rappel, 129 otages, dont 3 Français, sont toujours entre les mains des terroristes du Hamas, Charles Léry.
Merci Simon Guilain. L'information revient à 22h en direct, bien sûr, sur CNews. Deuxième partie, je vous le disais, avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert de Ça se dispute et la France qui a le baby blues. L'INSEE a publié un bilan alarmant de la démographie en France. En 2023, 678 000 bébés ont vu le jour dans le pays, soit 6,6% de moins qu'en 2022 et 20% de moins qu'en 2010. C'est le plus faible nombre de naissances sur un an depuis 1946. Comment l'expliquer d'abord, Philippe Guibert, et est-ce que c'est si grave que cela qu'il y ait moins d'enfants sur, dans notre pays?
Est-ce que c'est grave ou très embêtant? Oui, la réponse est oui, parce qu'à partir du moment où on a un système de protection sociale auquel les Français sont si attachés, en particulier à leur pension de retraite, ou leur future pension de retraite, il est bien évident que d'avoir une natalité qui diminue pose un problème structurel. Sur le financement de cette protection sociale. Et puis plus généralement, un pays qui vieillit est un pays qui perd en dynamisme, en énergie, dont les préoccupations évoluent beaucoup. Et donc non, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le pays. Deuxième question, pourquoi ? Moi je crois que la France est en train de rejoindre la tendance européenne. C'est-à-dire que la France était un peu mieux que les autres pays européens qui sont tous en déclin démographique et que la France est en train de rejoindre cette tendance européenne. La raison fondamentale, c'est le rôle, le statut, la liberté des femmes. C'est ça la chose fondamentale.
C'est-à-dire
qu'à partir du moment où les femmes ont gagné dans les 40-50 dernières années la capacité à choisir le moment, le nombre de leurs enfants et leur articulation avec un travail dans lequel elles sont beaucoup plus impliquées que les générations de leur mère ou leur grand-mère, enfin en tout cas impliquées de façon très différente, eh bien tout simplement ça conduit à une tendance générale en Europe et en Occident de manière générale à la baisse du nombre d'enfants par femme.
Parce que les femmes sont plus indépendantes et qu'elles veulent mener une carrière plutôt que d'avoir des enfants.
Parce que les femmes n'ont pas... C'était pas le fait qu'elle avait comme seul objectif de procréer, j'allais dire une bêtise. Mais en tout cas, la place des enfants dans la vie d'une femme n'est à mon avis pas du tout le même pour des générations qui ont aujourd'hui 30 ans, qui est l'âge moyen du premier enfant. D'ailleurs, cet âge moyen a beaucoup reculé, puisqu'il est de plus en plus tardif du fait de ces évolutions de la société. Et donc je crois que si on veut mener une politique familiale, parce qu'effectivement c'est un enjeu pour le pays, et c'est un enjeu d'avenir pour le pays, il faut bien prendre en compte le fait qu'on a changé de monde et qu'on n'est pas dans le monde des années 50 ou des années 60. Et que si on veut faire un peu plus d'enfants, il va falloir réfléchir et trouver des solutions et des politiques qui ne se contentent pas de reproduire ce qu'on avait auparavant, parce que je pense que le monde a changé là-dessus, parce que la place des femmes a changé.
Alors la France reste malgré tout bien positionnée par rapport à certains voisins européens, puisqu'en Italie et en Russie, c'est une catastrophe. L'Italie, c'est une catastrophe.
Oui.
Notamment, ça dégringole véritablement. Mais en effet, il y a un motif d'inquiétude, et ça n'a pas échappé au gouvernement et au président Macron, qui a proposé notamment un congé assez long pour les parents, pères et mères notamment, qui auraient éventuellement des enfants. Est-ce que la politique de natalité est suffisamment forte et solide, Geoffroy Lejeune, pour... que les couples aujourd'hui, que les mères notamment, aient envie de donner naissance à un enfant.
Non, je ne crois pas. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Philippe. J'aurais pu dire la même chose. Et du coup, je vais prolonger la réflexion. Je pense que j'ai peut-être un micro point de désaccord. La place des femmes, évidemment, joue un rôle énorme dans le choix. Mais on a vu qu'il y avait 20% de naissances de moins qu'en 2010. Et en 2010, la place des femmes était gros. Peu ou prou la même qu'aujourd'hui.
Oui.
Le rapport au travail, voilà. Donc pourquoi 20% de moins en 2010 alors que pour le coup sur ce sujet-là il n'y a pas eu d'évolution? Et là pour le coup il y a des raisons, c'est-à-dire que les causes ont des conséquences ou les conséquences ont des causes plus exactement. C'est que entre temps on a abandonné la politique familiale. C'est les sous le gouvernement. Je connais ta position sur le sujet. Je sais que tu vas pouvoir défendre ce qui a été fait, mais globalement la politique familiale est beaucoup moins favorable aujourd'hui. Les aides pour les gens qui ont des enfants sont beaucoup moins favorables. Le quotient familial est beaucoup moins favorable. Donc dans un monde où tu as peur de l'avenir, dans un monde où tu as peur pour ton pouvoir d'achat, où tu as tout simplement du mal à vivre, du mal à payer tes factures, du mal, tu payes beaucoup trop d'impôts, dans ce monde-là, tu te projettes moins dans le fait d'avoir un enfant parce que ça coûte cher d'avoir des enfants. Si tu es moins aidé, ça me paraît mais évident. Je pense pas que ce soit le désir d'enfant qui soit en décroissance.
Sans doute oui, par rapport aux générations
Est tendanciellement décroissant.
Des mères et des grands-mères, je suis d'accord avec toi, sans doute, mais pas par rapport à 2010. Donc les 20%, les derniers 20% qui sont les plus alarmants en réalité, cela pour le coup, je pense que c'est une question politique. Alors, et c'est une politique familiale qui a été abandonnée. Et pour répondre sur la question que vous m'avez posée sur le congé évoqué par Emmanuel Macron, pardon, mais en fait, avant on était sur 3 ans pour la mère, c'est ça ? On est passé à, on est passé, je crois, 1 an et demi ou 2 ans, bon, peu importe, mais on a réduit ça en donnant la possibilité aux deux parents de le faire. On sait tous que les pères ne le prennent pas ou peu, que donc ça réduit celui des mères. Et aujourd'hui, on évoque le nouveau congé d'Emmanuel Macron.
D'accord, c'est du politiquement correct.
C'est du politiquement correct et surtout, ça n'aura dans les effets aucun effet bénéfique.
Je pense aussi. Juste sur la politique familiale et les décisions de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault en 2014, j'étais directeur du SIG à l'époque, je savais que l'opinion, j'étais payé pour ça, je savais que l'opinion était tout à fait défavorable à ces décisions politiques, et eux-mêmes le savaient, ils ont pris ces décisions pour des raisons avant tout budgétaires et sociales. Les décisions qu'ils ont prises ne concernent qu'une partie des Français, une partie assez limitée. Quand tu dis le quotient familial, c'est donc sur les gens qui payent l'impôt sur le revenu, tu es d'accord ? Et l'impôt sur le revenu, hélas, c'est un autre problème, mais ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui, il n'est payé donc que par la moitié des Français. Donc quand tu réduis le quotient familial, tu peux discuter cette mesure, mais ça ne touche pas l'intégralité des Français, et ça touche toujours les Français les plus aisés. Non, de même sur les allocations familiales.
Les plus aisés, ça implique l'idée qu'ils soient riches. Non, c'est la moitié des Français les plus aisés, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément très aisés.
Oui, mais enfin, en fonction de l'évolution de tes revenus, plus tu vas grimper dans l'échelle des revenus, plus l'effet du quotient familial va être puissant. Pour quelqu'un qui est juste au-dessus du seuil, enfin, entrons pas dans des détails techniques. Et quant à la baisse des ou la suppression des allocations familiales, là aussi, c'était pour les ménages, vraiment les 10% de ménages les plus aisés. Alors, on peut discuter de cette politique, hein. Je ne cherche pas forcément à la défendre. Et les Français y étaient hostiles, je peux en témoigner, à l'époque.
Ouais,
j'ai toujours eu du mal à me convaincre que c'est ça qui provoque 20% de baisse de natalité.
Je cède la parole à Geoffroy Lejeune, juste en intégrant.
Juste, si vous me permettez, juste, parce que cette baisse de 20%, elle n'est pas concentrée à Paris, dans les métropoles où sont les ménages les plus aisés.
Mais non, mais les ménages, 50% des Français, c'est des gens qui vivent partout en France. C'est la moitié de la France la plus aisée, c'est pas des gens riches.
En intégrant dans le débat une idée préconçue pour beaucoup de Français notamment, c'est que les Français font moins d'enfants et que les familles immigrées en font plus. Il y a cette idée qui est en train de s'instiller, c'est peut-être une idée préconçue dans l'esprit de beaucoup de Français. C'est... Voilà pourquoi je vous cède la parole et, vous le connaissez le sondage, voilà pourquoi 69% des Français opposés au recours à l'immigration pour relancer la natalité, alors que la France connaît donc ce spectaculaire déclin démographique, les Français ne sont pas favorables à l'idée d'utiliser l'immigration comme levier pour relancer la natalité. Sondage CSA réalisé pour CNews, Europe 1 et le JDD Geoffroy Lejeune.
C'est très intéressant parce que en fait, ça veut dire que les Français ne veulent pas de la triple peine. C'est-à-dire que vous êtes Français et vous voulez faire des enfants, vous n'êtes plus aidé ou en tout cas pas assez aidé. Donc ça décourage.
Attends, tu es encore largement aidé, pardon, mais enfin vas-y.
Non, tu es moins aidé, donc pas assez.
Un peu moins aidé pour une partie des ménages.
Dans le contexte qu'on est en train de vivre avec l'inflation, la hausse de quasiment toutes les factures, la hausse de tous les impôts, ou alors des taxes, parce qu'il ne faut pas augmenter les impôts, donc on augmente les taxes, dans ce contexte-là, aujourd'hui...
Sur cette partie des ménages, c'est pas vrai, mais vas-y.
En fait, la vérité, c'est qu'on vit moins, on paye plus qu'il y a 20 ans, c'est tout, c'est comme ça. Et dans ce contexte, et on est moins aidé qu'il y a 20 ans. Donc c'est malheureusement, je suis désolé de te dire que en fait, ça a des conséquences. Premièrement, donc la première peine, c'est celle-là. La deuxième peine, c'est qu'en effet, il y a une immigration importante en France et que cette immigration, pour des raisons culturelles, pour des raisons de projection dans l'avenir, etc., ça fausse d'ailleurs les statistiques dont on parlait. Cette immigration, elle se reproduit au sens de la reproduction naturelle plus que les Français de souche ou les Français, autochtones, etc. Donc ça fausse les statistiques et ça inverse aussi la courbe démographique de ce pays. Ça, c'est la deuxième chose. Et la triple peine, c'est le discours ambiant qui nous explique, c'est la loi immigration de Gérald Darmanin, puisqu'on n'a pas assez d'enfants, on va faire venir des immigrés, parce que comme ça, ils vont payer des impôts et ils vont travailler à notre place. Et ça, pour le coup, et je pense que c'est pour des raisons, des raisons identitaires peut-être, des raisons culturelles, des raisons de ne pas vouloir changer de pays complètement trop vite non plus, les Français sont encore 69% à dire non. Et moi, je donne juste, il y a un pays qui a été confronté et qui a résolu de manière spectaculaire, ou qui est en train de résoudre de manière spectaculaire ce sujet, c'est la Hongrie.
Ouais,
la Hongrie,
elle a... Tu le cites, mais
je le cite à chaque fois parce que...
Pas du tout dans la même situation que nous.
Ils
faisaient beaucoup moins d'enfants que nous. Comme l'a rappelé Lionel tout à l'heure,
je suis d'accord,
la France, même si elle baisse, et elle baisse dangereusement, fait quand même encore un peu plus d'enfants que l'Europe de l'Ouest.
Avec
dans l'Europe de l'Est, ça n'a rien à voir.
Avec avec c'est des statistiques faussées par le poids de l'immigration dans ces, dans ces chiffres. C'est ça que je te dis, c'est qu'en fait aujourd'hui, tu ne sais pas combien les Français...
Les Français qui sont là, ils sont là, ils font des enfants, ils sont pas faussés.
Tu as raison, mais les Français qui étaient là il y a 20 ans font probablement beaucoup... Enfin, ils font d'ailleurs, c'est pas probablement, c'est le Figaro l'a révélé cette semaine, ils font beaucoup moins d'enfants que les Français qui sont arrivés récemment et que la population...
Il faudrait comparer en plus dans les générations issues de l'immigration.
Alors ça a été fait, je te renvoie à l'article du Figaro qui était enfin, à la tribune.
Et les précédentes générations.
Tout ça pour dire que je cite toujours la Hongrie. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui a été confronté à ce problème de manière dramatique.
Plus dramatique que nous.
Beaucoup plus dramatique, je sais, et qui l'a résolu de manière spectaculaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une incitation fiscale, ils ont fait des prêts à taux zéro pour les familles, ils offrent des voitures, ils offrent des congés.
Ouais, je sais.
Et en fait, c'est, ils ont renversé la table. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont augmenté leur natalité.
Mot de conclusion avant de parler de l'Europe.
La critique qui était faite à la politique familiale française, c'est qu'elle était anti-redistributive en langage technocratique. C'est-à-dire qu'elle bénéficiait vraiment qu'à une partie la plus aisée de la population. Et d'où les décisions de François Hollande et Jean-Marc Ayron. On peut les discuter, hein. Mais voilà. Après, je répète, la Hongrie n'est pas forcément le meilleur exemple parce qu'ils sont dans une situation vraiment beaucoup plus catastrophique que la nôtre. Donc il fallait vraiment qu'ils fassent quelque chose. Mais pourquoi pas faire des incitations fiscales, mais à ce moment-là, pour tout le monde? Pas simplement pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Je pense qu'il faudra réfléchir aussi à une autre façon de parler de ce sujet-là aux femmes. Moi, j'étais très frappé dans ma vie personnelle quotidienne de voir les jeunes femmes autour de moi réagir à ce débat de façon très mécontente en disant « mais on n'est pas là que pour procréer et on décide de faire des enfants quand on veut faire des enfants ». Alors voilà, c'est la société dans laquelle on vit. Je pense que c'est un progrès pour les femmes. Ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences pour le pays. Mais je pense qu'il faudra qu'on parle de ce sujet un peu différemment.
Les dernières minutes de l'émission consacrées à cette déclaration de Nicolas Dupont-Aignan ce matin sur CNews, dans la grande interview, notamment sur l'Europe. Il y a évidemment la perspective des élections européennes, mais la condition aujourd'hui de la France également au sein de cette communauté européenne. Faut-il sortir de l'Europe ? C'est ce que lui préconise en tout cas. L'écoute.
J'ai tendu la main pour faire l'union.
Oui.
J'ai proposé 10 points très clairs. Suppression de la Commission, de la Cour de justice, sortie du marché européen, rétablissement des frontières nationales. Des vrais points. Maintenant, j'attends, je lance la campagne. Nous aurons un projet clair. C'est un projet très clair de rupture avec l'Union européenne. Pas de Frexit, parce qu'on peut sortir à plusieurs. Moi, je veux qu'on passe du logement en copropriété à un lotissement de maisons individuelles. Revenir à l'Europe du général de Gaulle et d'Adenauer. On était très amis avec les Allemands. On travaillait très bien. Mais chacun était chez soi. C'est une vraie rupture.
Faut-il sortir de l'Europe, Geoffroy Lejeune? Et si tant est que ce soit possible, comment faire?
Alors, ce n'est pas ce qu'il propose, hein. Justement, ça m'a étonné parce que je connais. Je vais vous parce que j'ai suivi sa conférence de presse qui devait être hier, je crois. Et ça m'a étonné parce que je connais bien Nicolas Dupont-Aignan depuis très longtemps. Et il a eu des positions différentes. Alors en fonction des contextes, évidemment, il a été frexiteur à un moment donné.
Oui.
Et aujourd'hui, il arrive à une position.
Il veut quand même supprimer la commission.
C'est pas la même
la
chose.
Commission européenne, justement. Les frontières françaises récupérées. Par oui. L'État-nation et.
Mais c'est là où c'est très intéressant, Lionel. C'est que justement, je pense qu'en voyant, moi je veux pas juger son évolution, mais en voyant que sa position de Brexiteur était minoritaire dans l'opinion, qu'elle faisait peur, qu'elle n'attirait pas, etc., c'est quelqu'un qui à un moment donné faisait 5% ou quasiment 5% aux élections présidentielles, et aujourd'hui qui fait beaucoup moins, qui a beaucoup moins d'audience, etc. Il s'est intelligemment adapté à cette nouvelle réalité et il a proposé quelque chose en réalité qui serait faisable pour une fois. Et donc c'est la suppression de la commission. La commission, qu'est-ce que c'est ? C'est une excroissance technocratique qui décide à la place parce que à la limite si les parlementaires européens décidaient parce qu'ils sont élus etc. Pourquoi pas ? Mais c'est même pas ça.
Européen quand même.
Je parle de la commission.
Oui, le Conseil européen accepte ou refuse les propositions de la Commission.
Et il l'accepte, en fait, en réalité. Mais bon, bref. Donc, c'est aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de... Comment dire totalitaire, ce serait excessif, mais c'est vraiment... Ce serait excessif, et encore. Mais c'est vraiment, comment dire, antidémocratique. Voilà. Le pouvoir de la Commission est exacerbé. Et Dupont-Aignan propose, et je pense que sa proposition est majoritaire dans l'opinion, parce qu'il y a une exaspération par rapport à la technocratie européenne qui est encore plus énervante que la technocratie française, parce que elle nous échappe. Il propose ça, premièrement. Ensuite, les frontières, etc., vous connaissez par
cœur. Récupérer le contrôle des frontières.
Bien sûr.
Est-ce que ce n'est pas sortir de l'Europe ?
Ah pas du tout, pourquoi?
Bah, si la France récupère ses frontières, qu'il n'y a plus Schengen, qu'il n'y a plus possibilité de travailler avec les autres pays européens voisins, si on a le contrôle propre
on travaille
comme avant.
On travaille, Lionel, on travaille très bien avec les pays quand ils ont des frontières. On exporte dans tous les pays du monde, ils ont des frontières. On travaille le 13 novembre 2015... comme l'Angleterre, le 13 novembre 2015, on a fermé nos frontières pendant une période, Philippe, ce sera de quelques mois.
Covid aussi, on l'a fait.
Et pendant le Covid, on l'a fait.
Ça ne marche pas.
On a. Pardon ?
Ça ne marche pas.
Pardon ? Alors attends, je fais une petite pause. 13 novembre 2015, attentat du Bataclan. François Hollande, président socialiste, décide de fermer les frontières pour des raisons de sécurité. Est-ce que tu as l'impression qu'on a manqué de beurre, de lait, de viande, d'importation, d'exportation ? Ça n'a. Pardon ? Ça a duré plus que ça.
Ça remet en question tous les accords qui ont été établis avec les voisins européens. Philippe,
moi j'aime
le principe d'un accord, excusez-moi, le principe d'un accord, c'est que ça se renégocie en fonction des intérêts. Il y a des pays dont les frontières sont fermées, la Corée du Sud, les États-Unis. Les États-Unis, c'est pas le carmon.
La Corée du Sud, la frontière, c'est avec la Corée du Nord quand même.
Mais les États-Unis, Lionel, pardon.
C'est pas la même relation.
Les États-Unis, c'est pas le carmon,
je te réponds.
Philippe Guibert.
Dupont-Aignan a besoin de se singulariser dans un contexte politique qui, pour lui, aux européennes, va vraiment être difficile. Puisqu'avant, il était déjà coincé entre les Républicains et puis Marine Le Pen. Et là, en plus, il a Marion Maréchal. Donc, c'est compliqué. Sa proposition me fait penser, je ne sais pas si d'ailleurs du tout c'est la même, je ne crois pas d'ailleurs, mais un peu à l'esprit de la campagne électorale de Mme Meloni en Italie, qui s'est fait élire quand même sur le thème « on va reprendre le contrôle de nos frontières ». Bon, résultat, Madame Meloni, elle est un peu plus, ça fait maintenant un peu plus d'un an, je crois qu'elle est, oui, c'est ça, c'était à l'automne 2022. Madame Meloni, elle n'a pas repris du tout le contrôle sur ses frontières.
On l'a empêché.
Et le discours qui était le sien quand il est arrivé au pouvoir et qui était très hostile aux décisions européennes, elle en a complètement changé parce qu'elle a constaté que son discours n'avait aucune efficacité.
C'est pas ça.
Et que la seule solution pour
elle... Elle a un pistolet sur la tempe. Non, mais elle est obligée.
Je termine. Aujourd'hui, sa position est à l'inverse de celle qu'elle avait lorsqu'elle est arrivée au pouvoir. Cette stratégie de penser qu'on va reprendre le contrôle sur l'immigration en fermant nos petites frontières est, à mes yeux, ridicule. N'échappera pas à une coopération au minimum avec tous les pays méditerranéens. Quant à sortir de l'Europe... C'est un autre débat, ça demanderait beaucoup de temps, mais vu notre déficit commercial et nos déficits publics, je nous souhaite...
Geoffroy Lejeune, pour conclure, 50 secondes, la fin de l'émission.
La seule fois, depuis 30 ans, où il y a eu moins d'immigration dans ce pays, c'est pendant le Covid.
Toutes les frontières du monde étaient fermées.
C'est ce que je te dis.
Mais tu peux pas vivre comme ça. T'es dans un monde. C'est globalisé. Tu peux pas.
Une frontière.
Tu peux revenir. Tu peux considérer que c'est allé beaucoup trop loin.
Quand tu rentres chez toi le soir, tu franchis une porte.
Oui.
C'est la frontière de ta maison.
Oui.
Ça t'empêche pas de rentrer. T'as le droit de rentrer. T'es chez toi. Tu
rentres. Tu fais rentrer des invités.
Voilà, exactement. Les invités que t'as invités. Voilà.
Oui.
C'est le principe d'une frontière.
Oui, je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec ça.
La frontière, c'est pas un mur.
Si tu veux me faire dire que l'Union européenne est un échec sur beaucoup de points, j'ai pas grande objection à te faire. Il est bien évident que l'Union européenne a échoué depuis 20 ans ou 30 ans sur les frontières et sur d'autres aspects économiques et industriels.
Ça se dispute, c'est terminé pour ce soir. On revient vendredi prochain.
Ouais.
Attention, on sera fidèles au rendez-vous, évidemment. Merci d'être toujours plus nombreux à nous regarder. Dans quelques instants, c'est Soir Info avec Olivier de Kerenfleck. Vous restez avec nous sur CNews, bien évidemment. Bonne soirée.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.